avec vous. Et en cette période de Noël, je dirais même plus, j'ai transformé un petit peu ce message en disant « L'homme ne vivra pas de papillotes seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors si je vous montre ces images-là, est-ce que vous arrivez à me trouver un point commun parmi ces images-là ? Nous avons un entretien d'embauche, un mariage, une course à pied, un déménagement, un examen. La vie de tous les jours, le stress, quelque chose d'autre. On n'a pas encore trouvé le mot que je veux là. Les grandes étapes de la vie. Pourtant, Mickaël vous a aidé un petit peu en allumant les bougies ce matin. La deuxième bougie, c'était la bougie de l'attente, de la préparation. Merci. Il y a des grands événements de la vie comme ça où on doit se préparer. On n'arrive pas à un entretien d'embauche sans se préparer. On ne prépare pas un mariage. On ne voit pas un mariage voilà, non plus comme ça sans se préparer. Et idem pour les autres choses. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à un déménagement pour aider. En fait, il n'y a rien qui était prêt. Ok, voilà. Vous arrivez, vous voyez qu'en fait, il y a encore les assiettes dans les meubles. Ça m'est déjà arrivé. Et là, on sait que la journée va être longue, longue, longue. Donc, il y a des moments où on doit se préparer. Et en ce moment, on est en train de préparer Noël. On est dans cette période de l'Avent. Donc, avant, ça ne veut pas dire avant Noël. C'est bien A-V-E-N-T qui veut dire l'avènement, la venue du Messie. Et donc, si je vous dis que vous êtes en train de vous préparer à Noël, là, vous êtes en train de préparer quoi exactement ? Allez, on peut se lâcher, hein, on peut y aller. Les décorations, les cadeaux, la naissance, ouais. D'autres choses. Les repas, le sapin, exactement. Toutes ces choses-là, on est en train de les faire. On est en train de passer peut-être beaucoup de temps à préparer aussi les vacances, les temps en famille qu'on va pouvoir avoir. Et parce que quand même on est chrétien, hein, puis qu'on va à l'église, eh bien, on écoute aussi peut-être des méditations sur l'Avent. On reçoit par mail des méditations sur l'Avent. On écoute des podcasts sur l'Avent. Mais en préparant ce message, je me disais, tout ça c'est super. C'est très bien de faire ça. On est joyeux, on est heureux de préparer Noël, d'être dans la joie, de se renseigner, d'écouter des choses. Mais est-ce qu'il ne nous manque pas quelque chose ? On ne court pas un marathon sans préparation, ça on l'a vu, mais on ne prépare pas un marathon juste en achetant une nouvelle paire de baskets ou en écoutant quelqu'un qui nous parle du comment courir le marathon. On a besoin de s'entraîner, on a besoin de pratiquer, d'être régulier, de respecter certaines règles, sinon on va passer peut-être à côté de notre course. Et ceux qui ont déjà couru des marathons, je pense à Muriel qui est là, peut-être d'autres que je ne sais pas s'ils ont ce talent-là. Moi, j'ai essayé, mais j'y suis jamais arrivé. Je me suis arrêté à la moitié. Eh bien, on sait qu'une course, ça ne se prépare pas en 3 semaines. Ça se prépare pendant des mois, voire une année. Et c'est pour ça que ce matin, le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Préparer Noël en 365 jours ». 366 de temps en temps, mais en une année. Je prie vraiment ce matin que Dieu nous parle à chacun. Que tu marches avec lui depuis 30 ans ou que tu découvres son amour depuis quelques jours. Voilà, dans cette période de l'Avent, on est dans la joie, car Dieu est venu à notre rencontre, on l'a chanté, on l'a lu ce matin. Et ce qu'il veut, c'est qu'il veut venir habiter dans nos cœurs. Voilà, quand on ouvre les portes au roi, je prie que vraiment on ouvre les portes de notre cœur au roi des rois. Et le texte qui nous intéresse ce matin, c'est celui-ci, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3. Et on va voir que ça parle de préparation. Et le texte nous dit ceci. À cette époque-là, parut Jean-Baptiste, qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit, « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain, se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. On a des lectures de textes de Noël qui sont plus faciles que celles-ci, des textes dans l'évangile de Luc qui nous parlent de l'amour, de la joie, de la paix que nous donne le Sauveur. C'est sûr que le texte de ce matin est plus dur, peut-être un peu plus dur à accepter, à comprendre. Et du coup, je vous propose que dans ce plan de préparation de Noël en 365 jours, on y aille en trois étapes. Et la première étape, c'est, on l'a vu, préparer le chemin. On a Jean-Baptiste qui arrive sur la scène. Alors là, on est au chapitre 3. Et c'est dit à cette époque-là. Mais il faut savoir qu'il y a environ 30 ans qui se sont passés entre les chapitres 1 et 2. Les chapitres 1 et 2 nous racontent du coup l'annonce à Joseph et Marie qu'il va y avoir Jésus, qu'ils vont accueillir Jésus dans leur foyer. Ensuite, on a Joseph qui est complètement perdu, déboussolé par cette annonce-là. Ensuite, on a l'histoire bien connue de la naissance de Jésus, des anges, des mages qui viennent se prosterner devant lui. Et ensuite, on a la fuite en Égypte, parce que Hérode, qui règne à ce moment-là, est en colère que Jésus arrive et qu'il lui prenne la place. Et du coup, toute la famille est obligée de fuir en Égypte. Quelque temps après, une fois que Hérode sera plus là, toute la famille va pouvoir retourner vivre à Nazareth. Ça, c'est la fin du chapitre 2. Et quand on lit à cette époque-là, au chapitre 3, il y a environ une trentaine d'années qui se sont passées, Jean-Baptiste arrive. Jean-Baptiste, c'est le fils d'Élisabeth et Zacharie. Lui aussi est né d'une naissance miraculeuse parce que Élisabeth était stérile. Élisabeth est une cousine de Marie qui, elle aussi, a enfanté Jésus d'une manière miraculeuse. Et c'est une prophétie annoncée aussi par Ésaïe. On a lu des textes d'Ésaïe ce matin. Ésaïe 40, verset 3, annonçait la venue de Jean-Baptiste. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Nous en sommes là, à ce moment-là, où Jean-Baptiste arrive. On voit que Jean-Baptiste, il a une vie très spartiate, il est vêtu et il se comporte d'une manière peu commune. Mais on voit que son ministère n'a cessé de croître. Il y a beaucoup de gens qui viennent le voir. Et on voit que Dieu a choisi Jean-Baptiste pour être son ambassadeur pour annoncer la venue de Jésus. Et son message, il est clair. Son message est clair, c'est changer d'attitude. Changer d'attitude, les gens venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste, ça signifiait qu'ils admettaient leurs péchés, ils se repentaient. Et donc Jean-Baptiste était le prophète de ce moment-là. Il voulait préparer la venue du Sauveur. Il a préparé le chemin à Jésus. Et beaucoup pensaient que Jean-Baptiste était le Messie à ce moment-là. Et que c'était le Messie annoncé depuis tant d'années. Mais Jean-Baptiste est très clair dans son message. On peut le voir dans ce qu'on a lu déjà dans ces versets, au verset 11. « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. » Et on voit aussi qu'il dit clairement que c'est Jésus qui pardonne les péchés, c'est pas lui. Jean-Baptiste, il opère un baptême de repentance, ça veut dire que les gens viennent vers lui, reconnaissent leurs péchés, mais Jean-Baptiste leur rappelle que c'est pas ce baptême-là, c'est pas ça qui va les pardonner de leurs péchés, c'est vraiment Jésus qui pourra les pardonner de leurs péchés. On peut lire ça dans l'évangile de Jean à plusieurs reprises. Jean-Baptiste qui dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Et le verset dans Jean 1, 29, « Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il annonce clairement que Jésus est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été sacrifié à notre place et qui ôte le péché du monde. Donc Dieu seul peut nous débarrasser de notre péché et il ne nous demande pas de nous purifier avant de venir à lui, mais de reconnaître que nous sommes pécheurs et avons besoin de lui. C'est lui qui peut te pardonner, c'est lui qui peut donner un sens à ta vie. Alors ce matin, peut-être que tu n'as pas encore fait ce choix de suivre Jésus et voilà, il t'invite à enlever l'obstacle qu'il y a entre toi et Dieu. Peut-être cet orgueil qui existe, qui est là, de dire ben, « je voulais vivre sans Dieu et j'accepte, ça y est, j'accepte, je plie le genou devant toi Seigneur, je décide de te suivre ». Et Dieu, il n'attend pas que tu sois parfait avant de venir à lui, c'est impossible. On sait tous qu'on ne peut pas y arriver. Et quand on voit quel disciple il a choisi, les douze qu'il a choisis, on voit bien que ce n'est pas forcément celui qu'un recruteur aurait choisi dans son équipe. Mais Dieu les a choisis. Hein, on voit que c'était compliqué quand même, ils avaient du mal à comprendre. Ils se bataillaient pour la première place au ciel, ils avaient tous leur caractère. Ils étaient imparfaits, c'était des hommes comme vous et nous. Mais ils ont décidé de tout quitter, de tout abandonner pour suivre Jésus. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui ? Alors, on connaît l'histoire. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Au chapitre 4, Jésus qui se fait baptiser par Jean-Baptiste. C'est ensuite Jésus qui est tenté dans le désert et c'est le début de son ministère terrestre. Et on sait bien sûr comment a fini l'histoire. Il a été cloué à la croix, mais il est ressuscité. Hein, il est vivant aujourd'hui et on sait qu'il va revenir. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui ? Le premier point que j'y vois, c'est est-ce que nous aussi, nous sommes dans une attitude de repentance ? Le baptême de Jean-Baptiste était un baptême de repentance. Alors oui, on connaît l'histoire, on sait que Jésus, il a tout payé à notre place. Oui, nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Mais est-ce que je suis au quotidien dans une attitude de repentance et que j'essaye de plaire à Dieu, de demander pardon quand j'ai chuté. Je crois que préparer le chemin, la première étape, c'est aussi d'être dans cette attitude de repentance tous les jours, de reconnaître, de dire oui, merci Seigneur d'avoir tout pris à ma place. Mais je veux aussi te demander pardon pour tous les domaines de ma vie où c'est plus dur. Pardon parce que j'ai pu mentir, pardon parce que j'ai pu avoir ces mauvaises pensées, etc. Et le deuxième point que je vois comme application pour nous aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a des obstacles sur le chemin qui ont pris trop de place ? Est-ce qu'il y a des obstacles sur le chemin entre Jésus et toi qui ont pris trop de place ? Et je pense que la plupart d'entre nous qui sommes là ce matin, qui venons à l'église, nous aimons Jésus, vraiment de tout notre cœur si on est là. Nous aimons Jésus, mais on doit se poser cette question. Est-ce qu'il y a des obstacles, des choses dans notre vie ? Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années qui ont pris trop de place. Ça peut être des loisirs, ça peut être un travail, ça peut être un sport, des relations, des projets, ça peut être aussi le téléphone. Et je crois que le smartphone, les écrans, ce petit objet-là, c'est un des plus gros défis que nous allons avoir à gérer ces dernières années. C'est pas un problème que de la nouvelle génération, de la Gen Z ou de la génération Alpha. Nous tous, je pense, dans cette pièce, nous sommes confrontés à cet obstacle-là, qui est un outil incroyable, mais qui est aussi une drogue, une dépendance que nous pouvons avoir. Et je dois confesser aussi que, pour ma part, c'est le domaine sur lequel je travaille en ce moment. Je pense que le temps d'écran a pris trop de place. Et donc j'essaye de mettre en place des sabbats de téléphone. Ça veut dire qu'il y a des moments où je rentre et je décide de poser ce téléphone. Et vous voyez, là encore une fois, il y a la louange de ce matin qui se lance alors que ça n'a rien à faire là. Très bon exemple. On est tous confrontés à ce sabbat, à ce problème-là. Et moi, personnellement, je reconnais que j'ai du travail à faire dans ce domaine-là. Et je décide de tous les matins, qu'est-ce que je fais en me levant le matin ? Eh ben non, je ne prends plus mon téléphone, je le pose, je le laisse en hors ligne et je commence ma journée à prier, à lire ma Bible. Et il y a du travail, mais en tout cas, c'est la décision que je décide de prendre. Et peut-être que pour vous, ce n'est pas du tout ce domaine-là, peut-être que c'est autre chose, mais je crois qu'une des étapes dans notre préparation de Noël, en 365 jours, c'est de réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas des obstacles qui sont là, qui ont pris trop de place. Le deuxième étape de notre préparation, c'est préparer son cœur. Rebecca en a parlé ce matin dans certains chants. Oui, nous devons préparer notre cœur à la venue de Jésus. Je ne sais pas si vous connaissez l'application Strava, pour ceux qui font un petit peu de sport. C'est une application où on peut enregistrer nos sorties, nos activités sportives, et donc enregistrer notre cours de 10 km, notre randonnée, notre natation, et ensuite le partager à une communauté pour aussi se motiver, se challenger, et de dire « Ah bah tiens, lui, il a couru le 10 km en temps de temps, c'est bien, bah, moi j'ai pas couru de la semaine, tiens, je vais y aller. » Je ne sais pas si vous savez, mais y a des gens qui ont détourné cette application et qui sont payés pour courir à la place d'autres personnes. Et ça, c'est un exemple d'annonce qu'on peut trouver sur ce site-là. Je suis un jeune coureur aguerri qui a plus de 5000 km à son actif et je veux vous aider à remplir votre Strava pour avoir les stats que vous voulez. Et c'est là que le monde va vraiment mal. Hein. Là, il y en a qui ont tout compris, donc ils se font un petit peu d'argent en courant pour d'autres. Bon, j'imagine que c'est vraiment pas bien rémunéré. Mais surtout, il y en a qui donnent l'image qu'ils sont sportifs. Et en fait, c'est que de l'apparence. Et j'ai même découvert que parfois, ça pouvait aller encore plus loin et que du coup, ça leur donnait un alibi pour faire croire qu'ils étaient en train de courir ce jour-là, mais qu'en fait, ils étaient en train de peut-être tromper leur femme ou faire autre chose. Bref, voici une annonce qu'on peut trouver. Ça me fait penser un petit peu aux paroles de Jean-Baptiste envers les pharisiens et les sadducéens, quand il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Les pharisiens, les sadducéens, c'était les deux principaux groupes religieux de l'époque. Les pharisiens avaient mis l'accent plutôt sur le côté religieux. Ils avaient inventé tout un tas de lois, en plus de celles de l'Ancien Testament. Ils mettaient une pression à tout le monde pour dire « il faut respecter ça ». Et surtout, ils ne reconnaissaient pas que le salut était par la grâce de Jésus, mais il fallait respecter scrupuleusement toutes ces lois-là pour être sauvé, pour être en paix avec Dieu. Les sadducéens, de leur côté, étaient plus impliqués dans la politique. C'était deux groupes qui se détestaient, mais finalement, leur haine de Jésus les a rapprochés. Et donc, ce qu'ils leur reprochent, c'est deux choses. C'est qu'ils ne portent pas de fruits. Là, on voit qu'ils viennent se faire baptiser pour se faire bien voir. Mais en fait, on voit que quand ils repartent, leur vie n'a pas du tout changé. Ils viennent pour se faire voir, ils viennent pour montrer que « Ah ben oui, moi aussi je viens de me faire baptiser, je me repens. » Mais en fait, ils leur reprochent qu'il n'y a aucune différence, aucun changement d'attitude. Et Matthieu leur dira la même chose, Jésus leur dira la même chose en Matthieu 12. Il leur dira, Matthieu 12, 33, « Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous êtes ? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. » Encore une fois, il utilise cette expression de race de vipères, un animal au venin mortel, hypocrite, trompeur. Ça nous fait penser à un personnage qui est apparu dans le jardin rapidement dans l'histoire, au diable. Donc il les compare à Satan. Donc les mots sont forts, qu'ils sont des personnes qui trompent, qui sont hypocrites et qu'ils font des choses pour bien se faire voir. Deuxième reproche qu'ils lui font, c'est qu'il dit « ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. » Ils croient que, vu qu'ils sont les descendants d'Abraham, cela suffit. Eh bien non, ils leur rappellent que ça ne suffit pas. Et en application pour nous aujourd'hui, dans la deuxième étape de notre préparation en 365 jours, c'est que Jésus veut venir habiter dans nos cœurs. Et je me demande si parfois on ne ressent pas un petit peu aux pharisiens. Est-ce qu'on ne s'invente pas des règles ? Est-ce que on n'est pas peut-être des fois légaliste? Est-ce qu'on ne se croit pas supérieur, plus proche de Dieu, plus aimé de Dieu, parce que je fais comme ci ou comme ça? Et je trouve que cette période de Noël révèle particulièrement peut-être certaines dérives qu'il peut y avoir en nous. Est-ce que peut-être que vous dites que, bon, on n'est pas concerné, non, je suis quand même pas pharisien, oui, j'espère qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on ne s'invente pas parfois des règles aussi? Par exemple, regarde, ils disent qu'ils sont chrétiens et ils ont un sapin chez eux. Mais il y a trop de cadeaux, trop de décorations, trop de chocolat, mais c'est pas ça Noël. Chez nous, au moins, il y a une crèche. Des cadeaux, non, ça c'est juste une fête commerciale. Nous, on fête la naissance de Jésus. Nous, on fait une veillée de Noël avec des chants, on distribue même des biscuits aux voisins avec des versets. Ou alors on peut avoir l'autre camp. Regarde-les, ils ont l'air tristes alors que c'est Noël. Il n'y a aucune lumière, aucune décoration. On doit faire la fête, c'est la venue du Sauveur. Si on est honnête, est-ce qu'une fois ou l'autre, on n'a pas pensé ça dans notre cœur? Jésus regarde au cœur. Est-ce que je me crois supérieur aux autres? Est-ce que je crois qu'il n'y a qu'une manière de fêter Noël, qu'il n'y a qu'une manière d'avoir une relation avec Dieu, qu'une manière de louer Dieu? La première application pour nous, c'est celle-ci. Attention, est-ce qu'on n'est pas aussi parfois, nous, un petit peu pharisiens? La deuxième application que je vois, c'est ne cours pas pour quelqu'un d'autre. Ne cours pas pour quelqu'un d'autre. La foi, c'est un choix personnel, une décision que tu dois prendre en cœur à cœur avec Dieu. On pourrait dire, ne venez pas me dire que ta famille est chrétienne, que ton père est pasteur, que tes parents sont missionnaires, que ton conjoint est chrétien, que ton frère ou ta sœur est chrétienne. Mais Dieu frappe à ta porte et à la porte de ton cœur. Et il y a ce verset qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Deuxième point, c'est ne cours pas pour quelqu'un d'autre. Ne fais pas semblant. N'essaye pas d'avoir des statistiques pour Dieu. C'est pas ça qui compte. Tu dois faire un choix personnel. Alors je dis pas qu'il faut partir vivre tout seul dans la montagne, être isolé, vivre sa foi tout seul. Non, au contraire, je pense que la Bible nous dit que pendant la course, au contraire, on peut compter sur des frères et sœurs pour nous aider, pour nous encourager, pour nous reprendre. C'est important de vivre la foi à plusieurs, mais à un moment donné, tu dois faire un choix personnel. Et tu dois aussi avoir des moments dans ta vie où tu fermes la porte de ta chambre et tu es en cœur à cœur avec Dieu. Et je crois que la Bible, elle nous encourage vraiment pour progresser en tant que disciples, à être plusieurs. Nous devons aussi avoir ces moments avec des frères, avec des sœurs, en petits groupes, où on peut prier ensemble, on peut lire la parole ensemble, on peut se confesser des péchés les uns les autres ensemble. C'est ça qui va nous amener à progresser. La troisième application, ce serait de demeurer attaché à Jésus. Être avec Jésus, c'est le point de départ de notre transformation spirituelle. Là, on voit que le reproche qu'il fait aux pharisiens, c'est qu'ils ne portent pas de fruits. Ils ne portent pas de fruits. Il n'y a aucun changement. Et ça rejoint ce que Jésus nous dit dans Jean 15. « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est en cela que la préparation, c'est un choix du quotidien. C'est pas demeurer, ça veut pas dire le voir de temps en temps. Ça veut pas lui dire faire des visites à Jésus. Ça veut pas dire seulement au mois de décembre, pendant cette période de l'Avent, mettre l'accent sur notre relation avec lui, sur la lecture de la parole, etc. Préparer Noël, ça se prépare tous les jours de l'année. C'est tous les jours de l'année que nous devons demeurer en lui. Ça veut dire passer du temps. Ça veut pas forcément dire que toute la journée on doit lire la Bible, qu'on doit prier, qu'on doit méditer. C'est pas ça, demeurer en Jésus. Mais c'est très bien, par contre, si on a l'occasion de pouvoir lire notre Bible pendant 1 heure, c'est super. Mais je sais qu'on a aussi des vies bien remplies. Mais demeurer en Jésus, c'est pas forcément ça, mais ça veut dire être connecté à lui. Comme le tronc, le cep et les branches sont connectés, et ben nous devons nous nourrir et rester accrochés à ce tronc qui va faire couler en nous la sève, qui va faire en sorte que nous pouvons porter du fruit. Alors, passons du temps avec lui dans la prière, dans la lecture de la Bible. Restons connectés à lui quand nous sommes en voiture. Je crois qu'il n'y a pas, il y a pas, on a parfois tendance à séparer un petit peu la vie spirituelle et la vie charnelle, si on peut l'appeler comme ça. Mais là, ce verset nous montre que dans tout ce que l'on fait, nous devons demeurer en Jésus, rester accrochés à lui. Que l'on soit avec nos enfants, que l'on soit en voiture, que l'on soit avec nos collègues de travail, en train de faire des courses, peu importe ce qu'on fait, nous devons avoir nos pensées connectées à Dieu. Et c'est lui qui va nous permettre de trouver les mots justes, de pouvoir encourager d'autres, de pouvoir porter du fruit là où on est, de pouvoir proclamer la paix, la joie autour de nous, propager la paix, la joie autour de nous. Et parfois, on a tendance à vouloir devenir avant d'être. On a envie de devenir meilleur, on a envie de progresser, mais on oublie une chose, c'est que le point de départ, c'est d'être avec Jésus. Être avec Jésus. Plus on va passer de temps avec Jésus, plus on va pouvoir porter du fruit, on va être nourri. C'est le défi que l'on se lance. Je sais que c'est pas simple, on est tous en cheminement, mais vraiment, demeurons attachés à Jésus. La fin de ces versets, on va le voir tout à l'heure, peut faire un peu peur. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. On se dit, ouais, mais voilà, peut-être que je porte pas de bons fruits. Est-ce que je vais être jeté au feu? La question, du coup, que l'on doit se poser, c'est comment, c'est pas comment. Comment je peux porter du fruit et qu'est-ce que je dois faire pour porter du fruit? Mais la question principale, c'est est-ce que tu es accroché à Jésus? Est-ce que tu demeures en Jésus? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Et ce verset dans Jean 15, je vous invite à relire ces versets de Jean 15, on n'a pas le temps de les développer, mais c'est tout un programme de formation de disciples. C'est Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Voilà. On ne doit pas, par nos propres forces, essayer de porter du fruit, mais je crois que on doit essayer de passer plus de temps avec Jésus. Et c'est lui qui va faire pousser les fruits. Alors, on a vu deux étapes jusque-là. On a vu qu'on devait préparer le chemin. Est-ce que sur notre chemin, il n'y avait pas des obstacles qui avaient pris trop de place? On a vu aussi qu'il fallait préparer notre cœur. Voilà, que nous devons. La foi, c'est un cœur à cœur avec Dieu. On ne doit pas courir pour quelqu'un d'autre. On doit demeurer attaché à Jésus. Et la troisième étape que je vous propose, c'est préparer son retour. Alors c'est un petit peu bizarre parce qu'on parle de la naissance de Jésus. Mais la troisième étape que je vous propose de regarder, c'est de parler de son retour. On doit regarder la ligne d'arrivée et on ne doit pas regarder nos pieds. Hein? Il y a ce verset de l'apôtre Paul à Timothée qui parle d'une course. Paul qui nous dit ceci, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Premier point, première application à ce sujet-là, c'est que Jésus nous a promis qu'après la ligne d'arrivée, ce serait. On ne peut même pas imaginer, je crois, comment ce sera après la ligne d'arrivée. Une fois que Jésus va revenir, qu'il va nous prendre avec lui au ciel. Quand on chantait les Alléluia tout à l'heure, je me disais, waouh, ouais, mais ça va être ça, mais avec des milliers, des millions de personnes qui vont chanter avec les anges. On ne peut pas s'imaginer ce que ça va être. Et il y a ce verset aussi dans l'Apocalypse qui nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Un encouragement pour nous ce matin. On traverse tous des moments difficiles, mais on doit garder nos yeux fixés sur la ligne d'arrivée. On ne doit pas marcher les yeux rivés sur nos pieds. Alors oui, on a tous des difficultés qui nous arrivent, on a tous des douleurs, des problèmes. Quand on allume les médias, eh ben, c'est encore pire. On peut vite avoir tendance à oublier de regarder la ligne d'arrivée où il y aura quelque chose de merveilleux qui se prépare pour nous, Dieu qui nous prépare une place. Et la deuxième chose, c'est que vous allez me dire, oui, mais la ligne d'arrivée, c'est bien, mais là, je suis qu'à 10 km. Là, je suis dans mon ultra trail de 170 km et devant moi, je sais que c'est pas une piste qui est toute plate. Il y a des montées, il y a des descentes, il y a des pierriers à traverser, il y a du froid, il y a la nuit, il y a de la boue. Des fois, il y a même des arbres en travers, plein de choses qui sont là. Et je crois que je vous apprends rien ce matin. Hein. Je sais que on traverse tous des moments. On sait tous que la vie, c'est pas une piste d'athlétisme toute plate. Hein. C'est une course dans la montagne. Il y a des épreuves, il y a des souffrances, il y a des maladies. C'est dur. C'est dur, c'est dur. Oui, mais Jésus, ce que le texte veut nous rappeler aussi ce matin, c'est que Jésus, il sait. Jésus, il n'est pas né dans un palais, il n'est pas né au calme, il n'est pas né avec des décorations dorées, il n'est pas né loin des problèmes. C'était le chaos. Quand on voit souvent des images de Noël où il y a tout le monde qui sourit. Voilà, on a Jésus qui sourit, qui est bien coiffé, tout va bien. On a Joseph qui sourit, on a le même Jésus qui sourit, limite l'âne qui sourit également. Tout va bien, tout est beau, tout est rangé, tout est nickel. Mais ce n'était pas ça la naissance de Jésus. Ce n'était pas ça du tout, c'était dans une étable, c'était le chaos. Joseph, imaginez Joseph qu'il a dû vivre en disant « Oui, tu vas être le père de Jésus. T'annonces ça à tes collègues au bureau. Alors c'est le Saint-Esprit qui a fait ça. » Il n'avait jamais eu de relation avec Marie, il a dû subir une pression incroyable. Marie également. Toute cette situation, c'était le chaos. On a tendance aussi à oublier ça. On voit qu'après, Jésus, il a dû fuir parce que toute la famille de Jésus a dû fuir parce que Hérode voulait le tuer. Et du coup, il y a eu un massacre des enfants. À ce moment-là, c'était la souffrance, c'était le chaos. On voit que Hérode a voulu contrer le plan de Dieu, mais il n'y a rien qui peut contrer le plan de Dieu. On voit que Jésus, il a souffert, il a été seul, il a pleuré. Il a dit, il a proclamé, mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Donc si tu traverses des moments difficiles en ce moment, Jésus, il sait. Jésus, s'il avait voulu, il serait resté là-haut au ciel, ou alors il serait venu d'une manière triomphale sur un char. Mais non, il n'a pas décidé ça parce qu'il voulait te faire comprendre que sur la course, Jésus il court avec toi. Jésus il court avec toi et que même si tu n'es qu'à 1 km du départ, à 10, Jésus il veut te dire qu'il est avec toi, à tes côtés. Il est sur le chemin, il va te porter dans les épreuves. Ça, c'est une assurance que nous devons avoir. Jésus, il est avec nous, il n'a pas choisi de venir d'une manière triomphale, mais il a tout fait pour s'identifier à nous. Et on n'est pas seul parce qu'il nous a aussi laissé quelqu'un. Hein. C'est dit, Jean-Baptiste, il disait cela, moi je vous baptise d'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il nous parlait du Saint-Esprit qu'il allait nous laisser ce consolateur, l'esprit de vérité, dans Jean 14, 16, 17. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Et aussi ce verset dans 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? On n'est pas seul parce que si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Et on peut avoir cette assurance que dans le chemin difficile que nous sommes en train de traverser, ben nous ne sommes pas seuls. Alors dans cette troisième étape de préparation, c'est important de penser à ça, de pas seulement penser à ce qu'on vit en ce moment, mais d'avoir les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, parce que nous avons cette assurance que jusqu'à la ligne d'arrivée, Jésus est avec nous, il est à nos côtés, il nous aide, il combat pour nous, et on sait qu'un jour, il y a une place qui nous est préparée. Et ça doit nous porter dans cette espérance. Pour conclure, j'aimerais nous laisser avec ces trois pensées que nous venons de voir. Peut-être que ça vous surprend un petit peu, ce programme de préparer Noël en 365 jours, mais je crois fortement que Noël, ça se prépare pas juste à partir du 1er décembre, mais toute l'année, parce que Jésus il veut venir habiter dans nos cœurs. Et toute l'année, nous devons réfléchir à ces trois questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui prend trop de place sur le chemin ? Dieu est venu à notre rencontre, il a tracé un chemin, mais est-ce que sur ce chemin-là, il y a quelque chose qui prend trop de place en ce moment ? Est-ce que ma priorité, ça va être de demeurer en Jésus ? Est-ce que je vais arrêter d'essayer de lutter tout seul, de combattre tout seul, de vouloir m'améliorer tout seul, mais en premier de demeurer en Jésus, pour être avec lui, avant de vouloir devenir quelqu'un ? Et cette troisième réflexion, voilà, qu'on n'est pas seul. Tu n'es pas seul en ce moment sur le chemin. On traverse tous des moments difficiles, des souffrances, que ce soit nous ou autour de nous. Mais tu n'es pas seul dans cette course. Et cette assurance que nous avons une place qui nous est préparée. Et encore une fois, ce matin, ce texte nous rappelle aussi que à la fin, il n'y aura que deux camps. Il y aura ceux qui seront avec Dieu et ceux qui seront loin de Dieu. Et peut-être que ce matin, voilà, Dieu il t'invite à lui donner ton cœur, à l'accepter dans ton cœur. Oui, c'est ça. La joie de Noël, c'est Jésus qui veut venir habiter en toi et qui veut marcher avec toi. Il ne t'attend pas, il ne s'attend pas à ce que tu sois parfait, que tu sois saint, mais il s'attend à ce que tu te repentes, à ce que tu demandes pardon et que tu désires marcher avec lui. Alors qu'on puisse prendre un moment de réflexion, chacun personnellement, avec Dieu, qu'on puisse prendre 2-3 minutes où on est en cœur à cœur avec lui. Et je terminerai par la prière.